Québec. Au FM 93.
Là, je sais, j'ai dit qu'on allait vraiment retomber dans le coronavirus parce qu'on était avec François sur autre chose, la chronique historique. Mais il y a une nouvelle à côté de laquelle on peut pas passer aujourd'hui, là. C'est cette intervention de la DPJ qui a mené au décès d'un enfant de 2 ans. Alexis, qu'est-ce qu'on sait là-dessus en ce moment?
Ah, c'est une histoire horrible, là. Honnêtement, préparez-vous, là. C'est vraiment horrible, là. C'est un bébé qui est mort jeudi passé pendant une intervention de la DPJ. Il y a un signalement qui a été fait en janvier, les intervenants de la DPJ ont classé ce cas-là code 3. Donc, code 3, c'est le moins élevé. Le moins prioritaire.
Okay.
Normalement, même si c'était moins prioritaire, en dedans de 12 jours, il faut que tu ailles rendre visite. Eux, ça arrive en janvier. Ils ont lâché un coup de fil dans la dernière semaine. Et ils se sont rendus compte que les parents n'étaient pas trop collaboratifs. Donc, jeudi passé, ils sont allés là-bas. Et là, on va y aller heure par heure, OK?
OK.
13h15, jeudi, les parents ouvrent la porte. Deux intervenants de la DPJ sont là. Ils sont pas trop certains de vouloir les laisser rentrer. Les intervenants de la DPJ insistent. Ils rentrent à l'intérieur. Et là, c'est une scène d'horreur. T'as 4 enfants qui sont à l'intérieur. Il y avait des champignons sur le visage.
Oh mon Dieu!
Et il voyait clairement qu'il y avait négligence là. Des parents, la peau purulente aussi là, sur les enfants. Là, il est 13h15, il rentre à l'intérieur. À 14h, la DPJ a décidé de procéder tout de suite au placement des enfants. Ça, c'est selon les informations de Radio-Canada. C'est eux qui ont vraiment le heure par heure de l'histoire.
Okay.
À 14h, la DPJ a donc décidé de placer les enfants d'urgence dans les familles. Il y a un garçon de 6 ans, un garçon de 2 ans, puis deux petites filles jumelles qui ont 6 mois. Donc, les intervenants sont sortis de la résidence, ils ont appelé la police. Ils ont trouvé une famille d'accueil et puis là, il fallait qu'ils réussissent à trouver aussi un véhicule pour mettre le bébé, les bébés à l'intérieur, les deux bébés de 6 mois pour pouvoir les transporter. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que quand ils reviennent dans le logement à 15h, donc une heure après être sortis, là, ils voient les policiers. C'est correct, on les avait appelés, mais il y a une ambulance aussi qui est sur place. Parce que le petit gars de 2 ans... il y a des problèmes respiratoires. Quand il est arrivé à l'hôpital, ils ont constaté qu'il est à mort.
Attends, là, je veux juste être sûr d'avoir tout compris parce que j'essaie de prendre des notes puis en même temps, j'ai les champignons qui me reviennent en tête depuis tantôt puis ça m'épouvante, là. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où les intervenants de la DPJ cherchent un véhicule pour mettre les bébés, ils s'en vont de la résidence pendant une heure?
Ils sont sortis de la résidence pendant une heure.
Pendant les enfants sont encore, les autres enfants sont encore là? Tout le monde est sorti?
Tout le monde est sorti. Okay. C'est ça qui est un peu bizarre, là, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que les intervenants de la DPJ ont laissé ces enfants-là une heure seuls, alors qu'ils venaient de constater qu'il y avait urgence, là.
C'est ça, j'ai bien compris que les intervenants de la DPJ, selon ce que Radio-Canada rapporte, débarque là, décide d'intervenir rapidement, puis encore là, il y a tellement d'affaires. L'autre affaire, c'est comment, à une première évaluation, après le signalement, on se dit, ça, d'après nous, c'est classe 3, alors qu'il y a question d'enfants qui sont tellement dans des conditions épouvantables, qui ont des problèmes de peau sévères, là, puis des problèmes de... Il y a des problèmes de salubrité sérieux, là, tu sais. Comment ça se retrouve classé code 3? C'est quoi le processus qui fait que ça devient classé code 3? Pire, la question à laquelle on n'aura jamais de réponse, parce que le système n'est pas fait pour qu'on ait réponse à ces questions-là. Qui a pris la décision de dire que ça, c'est classé? Des classes 3. Puis c'est quoi les paramètres pour qu'on dise, OK, ça, c'est plus ou moins urgent? Il n'y a personne qui est allé encore.
Non.
Puis déjà, il détermine que ça, d'après ce qu'on a eu comme info, c'est moins urgent.
Puis dis-toi que la pire affaire, là, oui, ça a été classé code 3. Sauf que je te rappelle que le signalement a été fait en janvier. En théorie, ils sont obligés de faire un suivi dans les 12 jours suivants.
Mais t'as dit qu'ils sont allés dans la dernière semaine de janvier.
Ben c'est ça. La dernière semaine.
J'ai pas dit
janvier, j'ai dit dernière semaine.
La
semaine passée.
Ça fait que ça a pris quasiment 2 mois.
Mais ça a pris 2 mois avant qu'ils appellent.
Oh.
Faut qu'en 12 jours, tu fasses un suivi. OK? Même si c'est pas prioritaire, faut que tu fasses un suivi. Parce que eux, ils ont juste... Quand ils ont reçu le cas, ils n'ont pas appelé, ils ont juste reçu le cas. Avec l'appel, avec la dénonciation. Ils ont vu le cas, ils ont dit, OK, ça, c'est code 3. OK, bon, en 12 jours, ils devaient faire un suivi. Ils ne l'ont pas fait. Le suivi, ils l'ont fait dans les derniers jours, la semaine passée. Et même s'ils ont dit, OK, c'est un code 3, quand ils ont appelé, ils se sont rendus compte, OK, ouais, pas de collaboration des parents, faudrait y aller, là. Donc, c'est pour ça qu'ils sont allés. Mais s'ils avaient fait tout ça en janvier... On serait pas là. S'il avait respecté le protocole de 12 jours.
Du petit gars. Ben ouais. Peut-être que, ben, comme un auditeur nous le mentionne, peut-être qu'en janvier, il savait peut-être pas qu'il y avait des problèmes de salubrité dans la maison ou dans l'appartement. Là.
Non, mais il aurait quand même dû faire le suivi
oui,
en 12 jours.
Absolument.
Ben,
non, c'est ça, mais t'as raison. Exact. S'il avait fait le suivi à l'intérieur des 12 jours, ça serait pas rendu, la situation se serait pas rendue là.
Non ouais. Seulement ça, mais ça, c'est les paramètres qu'on connaît. T'sais, donc, quand il y a tel code de classification, ben c'est à l'intérieur de 12 jours. Parfait. C'est quoi les paramètres qui permettent à une personne qui est employée par la DPJ de dire ça, on a un signalement, et en fonction des informations qu'on a, ça, c'est plus ou moins urgent. Là, je sais qu'on a un cas précis qui est un échec honteux, lamentable, gênant et franchement bouleversant. Là, c'est fâchant. Mais... comment on peut penser que leur système est efficace quand on peut juste se baser sur un signalement pour ensuite déterminer une cote qui détermine bon à quel moment faut intervenir puis dans quel niveau d'urgence
ouais.
Qu'on puisse échouer lamentablement à évaluer à quel point cette situation-là peut être urgente puis que ça donne lieu au décès d'un enfant de 2 ans qui a jamais rien demandé à personne, qui a grandi dans des conditions dégueulasses puis aujourd'hui qui est décédé.
Puis l'ironie triste de la chose, c'est que cette journée-là, la commission Laurent, la commission sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, a dit, hey, la COVID-19, ça nous inquiète, ça, là.
Ben,
parce que ça fait que t'as des enfants qui vont se ramasser à la maison, des enfants qui ont des traitements un peu moins favorables, qui plutôt que d'aller à l'école vont toujours se ramasser chez eux. C'est inquiétant.
Ben,
c'est jeudi passé, ça,
j'ai
la même journée.
J'ai vu un tweet très touchant. Et très franc de Nancy Audette, qui est journaliste à TVA Sport, qui a eu affaire étant plus jeune avec la DPJ, justement. Puis
elle se qualifie comme une enfant de la DPJ.
Puis elle a écrit un truc du genre, je l'ai pas sous les yeux, mais elle a écrit un truc du genre, j'ai une pensée pour les enfants qui, comme moi, aimaient pas la fin de semaine, puis aimaient pas les congés de tempête de neige, puis là, sont privés en ce moment
de
l'école.
Ils sont privés de l'école, qui est leur seul lieu où ils se sentent en sécurité.
Exact. Puis qui n'ont pas ça en ce moment. Ces enfants-là, présentement, il y en a dans les chaumières du Québec, à gauche, à droite, dans toutes les régions, il y en a. Le problème, puis la commission Laurent, sincèrement, eux autres, là, va falloir qu'ils mettent leur culotte parce que moi, je peux pas croire qu'on va arriver, qu'on va aboutir au bout d'une commission qui est importante comme celle-là avec des recommandations bidons qui ne seront pas appliquées. À date, là, je suis pas un spécialiste, je vous dis juste mon opinion, vous n'êtes pas obligé de la partager. Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui la partagent. À date, là, la seule façon que je vois pour essayer de sauver ces enfants-là qui passent entre les mailles d'un filet qui est beaucoup trop lousse, là, c'est de recommencer à zéro. C'est de recommencer pour... Il existe des gens qui sont qualifiés, là, qui sont bons, là, qui ont étudié là-dedans puis qui ont de l'expérience dans, justement, l'aide aux enfants qui sont vulnérables. Là. Ben, il va falloir que ce soit ces gens-là qui disent, regardez, là, la DPJ, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Cette introspection-là, c'est ça, moi, c'est à ça que je m'attends de la commission Laurent. Pourquoi ça marche pas, la DPJ? Ça marche pas d'abord parce qu'il n'y a aucune imputabilité. Ça, on le dit depuis un bout. Après ça, ça marche pas parce qu'il manque de ressources. Pas nécessairement d'argent, de ressources humaines. Là. Il manque de personnes. Là. Ça prend des gens pour aller travailler là.
Puis sur, sur le terrain.
Oui, sur le terrain. Puis pour que des gens y travaillent là, ça prend des conditions favorables pour les attirer. Ça, c'est inévitable. Là. Mais je vois pas comment on peut réparer un organisme qui, en ce moment, accumule autant les échecs. Je trouve ça honteux et lamentable. Courte pause, on va reprendre nos esprits un peu. Après, on fait un petit tour du monde vite. On va aller faire un tour en Chine, puis un tour à New York, qui sont deux endroits qu'on a vraiment envie de surveiller sa planète en ce moment.
FM 93, cœur de Québec. FM 93 fait bouger les choses. Fait parler Québec depuis 40 ans. FM 93, Québec. Jusqu'à 10h, vous écoutez Que Québec se lève.
Que Québec se lève.
Avec Paul-Raphaël Charon, Vez et Alexis Sanson. Que Québec se lève.
Au FM 93.
93. Je te dis, ça va me prendre la pause. Je suis de mauvaise humeur. Je vais retrouver ma bonne humeur, là. Rassurez-vous, là. Je vais retrouver ma bonne humeur. Mais ça me fâche, ça vient me chercher, moi, ces histoires-là. Là. C'est épouvantable. À 9h06, as-tu d'autres nouvelles pour nous?
Oui, j'ai d'autres nouvelles. Il y a des barrages de la Sûreté du Québec qui interdisent depuis hier, en fin de journée, l'accès à 8 régions du Québec. On parle ici du Bas-Saint-Laurent, Abitibi, Côte-Nord, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Nord du Québec et également le Nunavik. Tout ça pour les déplacements jugés non essentiels, en fait, sont interdits. Les voyageurs sont priés de faire demi-tour pour éviter la propagation de la COVID-19. Il y a une vingtaine d'infirmières de l'Hôtel-Dieu de Lévis, dont une enceinte ont été en contact direct avec une résidente du manoir Liverpool atteinte du coronavirus sans les équipements de protection nécessaires. Les infirmières ont été retirées de leur milieu de travail. La dame a été testée positive lors de son hospitalisation. Elle a donc été admise à l'hôpital avant qu'on sache que six résidents étaient atteints. Les infirmières l'ont donc côtoyée sans équipement de protection, selon Radio-Canada. Et la distillerie des Appalaches a décidé de ralentir sa production de gin pour se lancer dans la fabrication de gel désinfectant. L'entreprise de Lévis a expliqué au Soleil qu'une première quantité de gel devrait se faire approuver cette semaine et que ces 300 litres pourraient être acheminés aux différents établissements de santé. La distillerie prévoit fournir 1000 litres par deux semaines.
À la météo, on a un maximum de 6 qui est prévu cet après-midi. Ciel gris comme ça aujourd'hui, toute la journée. Là. Attendez pas les gros soleils de plomb, là, ça arrivera pas. Ça va être gris comme ça aujourd'hui. Demain aussi, une bonne partie de la journée. Et aujourd'hui, en deuxième moitié de journée, il va commencer à avoir des précipitations sur 90% du territoire de la région. Ce qui va les chances sont bonnes qu'il vous pleuve sur la tête. Peut-être un peu de neige en altitude aussi. Quelques centimètres de neige qui pourraient être prévus. Même en ville, là, mais en tout cas, si vous voulez mon... My two cents, comme disent les Anglais. Si vous voulez mes deux cents, je pense qu'en ville, ça va être plus de la pluie. Minimum de 1 la nuit prochaine, de 2 demain, retour du beau temps. Mardi, présentement, c'est...